Voilà, chers amis, bonsoir à chacun, chacune. Nous sommes heureux, avec mon épouse, de nous retrouver auprès de vous, au milieu de vous. Cela fait maintenant quelques 13 ans qu'on a quitté la région pour nous installer sur la ville de Clermont, sa région, où, avec la famille, nous servons Dieu. Et nous sommes heureux ce soir d'être là et de retrouver des visages connus, d'autres moins connus, mais c'est bon signe. Cela veut dire que l'Église se renouvelle, cela veut dire que l'Église, eh bien, est aussi en plein épanouissement, plein développement. En tout cas, nous vous apportons les salutations des frères et sœurs de Clermont, l'équipe pastorale qui travaille avec nous, à nos côtés, et puis nos filles qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui sont maintenant grandes. L'aînée, on l'a mariée en juin, la deuxième fréquente. Et puis, donc, voilà, hein, c'est la vie. En tout cas, on est heureux d'être là avec vous. On va sans plus tarder ouvrir l'Écriture, si vous le voulez bien. Je vous propose un texte avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, si vous avez l'Écriture entre vos mains. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, et à partir du verset 14e. Le livre de l'Apocalypse, en tout cas, merci à votre pasteur, à son épouse, pour l'invitation. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Il est écrit ceci. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent plus, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Nous retiendrons ce verset 20e, où il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quel merveilleux programme que celui que Jésus nous propose. La Bible dit que le Christ, le Fils de Dieu, un jour, eh bien, s'est révélé à ses hommes, ses femmes, de la ville de Laodicée. Des gens qui vivaient, je dirais, dans l'illusion d'être riche, l'illusion de tout savoir, l'illusion aussi peut-être de tout avoir, et alors que, eh bien, ils se berçaient tranquillement ainsi d'illusions, parce que la réalité était tout autre. La Bible nous dit que Jésus se révèle, et il met le doigt là où le bât blessé. Et Jésus va dire à ces hommes et à ces femmes, parce qu'au fond, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Je te conseille, dira le Seigneur, de venir acheter de moi, eh bien de l'or, afin que tu ne sois plus dans la pauvreté, mais qu'enfin tu sois riche, un collier, afin que, eh bien désormais tu vois, et tu ne sois plus dans l'illusion, des vêtements, afin que ta nudité ne paraisse pas. Et enfin, la Bible dit que Jésus va faire une proposition, il est là à la porte, eh bien, de la vie de ces hommes et de ces femmes, il frappe à la porte de ces vies, et Jésus de dire, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, nous nous mettrons à table, nous aurons un moment de partage, un moment de face à face. Et Jésus le dire, eh bien, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui aussi avec moi. Et nous bénissons Dieu ce soir parce que, voyez, la Bible nous dit que hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est toujours le même. Et comme hier, il aimait à mettre le doigt là où les choses n'allaient pas. Et comme hier, il ne caressait pas dans les gens dans le sens du poil. Il n'encourageait pas les gens dans leurs illusions. Mais il venait afin d'éclairer les cœurs, d'éclairer la conscience et d'apporter, voyez-vous, des solutions. Nous aimons à croire que ce soir, eh bien pour quelqu'un, peut-être qui vivait dans ses illusions, nous aimons à croire que Jésus est là. Ce soir, il vient frapper à la porte d'un cœur. Il vient nous révéler, eh bien, notre état. Il vient révéler le secret état des cœurs. Il vient non seulement nous révéler ce qui ne va pas, parce que nous révéler au fond ce qui ne va pas, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Mais avec cela, il vient révéler la solution. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. En d'autres mots, c'est un programme de changement. Un programme, voyez-vous, de restauration, un programme de réhabilitation, un programme de salut. Et ma prière ce soir, comme souvent nous le chantons dans nos réunions, un chant qui dit « Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?» Ma prière, nous avons prié avant ces moments, eh bien, pour que Dieu bénisse un cœur, une vie, une âme. Nous prions pour que, pendant que la parole est partagée, eh bien, le Saint-Esprit vienne et il se révèle un cœur. Quelqu'un entende, non pas la voix du prédicateur, non pas un sermon, non pas un message, mais la voix du Fils de Dieu. Et ainsi, en entendant la voix du Fils de Dieu, quelqu'un puisse faire la démarche, ouvrir son cœur, ouvrir sa vie, et ainsi, en recevant Jésus, recevoir le salut et la vie éternelle. En tout cas, ce que je relève dans ce récit, il est dit, c'est Jésus qui parle donc, « Voici, je me tiens. » J'aimerais souligner avec vous ce petit pronom personnel « je ». Ce petit pronom personnel « je » qui finalement nous montre comment c'est Jésus qui est toujours à l'initiative du salut. C'est Jésus qui est toujours l'auteur du salut. Dans ce récit, ce qui m'émerveille, ces hommes et ces femmes sont là dans leur illusion. Eh bien, ils se targuent d'être riches, de tout avoir, tout posséder. Nous n'avons besoin de rien du tout. Et au fond, Jésus aurait pu leur dire, « Mais écoutez, puisque vous êtes si bien dans votre situation, je me lave les mains de votre situation, de votre état. » Mais non. Ce que nous aimons, c'est que Jésus se met en mouvement. C'est lui, voyez-vous, qui prend l'initiative. C'est lui qui se met en mouvement. C'est lui qui va à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. Et là, il montre combien le salut, voyez-vous, vient de lui. Voici je. Et ça, c'est l'Évangile. C'est en cela que l'Évangile est une bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, voyez-vous, nous montre comment, finalement, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, qui avons un jour entrepris une démarche pour chercher Dieu. Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, le dira. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et non seulement il nous a choisis, mais, eh bien, il nous introduit dans son plan de salut. L'initiative du salut, c'est Jésus qui l'a entrepris un jour. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait part à la vie éternelle. Et voyez-vous, il y a quelques 2000 ans de cela, alors que Dieu promenait son regard à la surface de cette terre, il a vu combien vous, moi, eh bien cette humanité, nous étions en train de nous dépatouiller dans notre bourbier. Nous étions en train de nous dépatouiller dans nos péchés. Chacun essayait de s'en sortir comme il le pouvait. Et parce que, voyez-vous, aucune initiative personnelle n'a pu nous amener à nous extirper de notre bourbier. Alors Dieu a pris l'initiative. Et j'aime ce texte dans le livre d'Ésaïe, où Dieu tient un conseil spirituel. Je m'imagine toute l'armée céleste est là devant lui et Dieu lance un appel. Il demande à ce que quelqu'un relève ce grand défi. Qui marchera pour nous? Qui sauvera ce monde de son péché? Et alors que, voyez-vous, tout l'univers céleste s'est tu, une voix a déchiré le silence. Jésus a pris la parole. « Me voici, Père, envoie-moi, me voici pour faire ta volonté. » Et ce Jésus, par amour pour nous, la Bible nous dit, bien qu'étant, ayant été l'égal de son Père, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Nous aimons l'Évangile parce que l'Évangile, c'est réellement une bonne nouvelle en ce que, bien-aimés, alors que vous et moi, nous étions en train de sombrer dans nos péchés, eh bien, Jésus a quitté son ciel de gloire. Voyez-vous, le message du salut ne consiste pas à dire « Je fais tout ce qui est en mon possible et peut-être j'y arriverai. » Ça, c'est le langage de la religion. « Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Peut-être arriveras-tu à te rendre meilleur, à t'améliorer. Peut-être deviendras-tu un bon religieux. » Mais le message de l'Évangile est tout à fait différent. L'Évangile nous dit « Parce que nous étions incapables de faire quoi que ce soit. » Parce que nous étions incapables de quelque initiative pour nous sortir de notre bourbier. Alors Dieu, dans son amour, lui, il a pris l'initiative, il a envoyé son Fils. Jésus est venu non pas parce que cela lui a été imposé, mais Jésus est venu de son propre chef, il est venu par amour. Et l'Évangile, c'est un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui se fait homme, le grand Créateur qui se fait créature, le grand Dieu Tout-Puissant, eh bien, qui se fait tout petit. Il descend, voyez-vous, dans notre misère, il descend jusque dans notre péché, il descend jusque dans notre bourbier. Et la Bible nous dit, il vient nous tendre la main, il vient littéralement nous relever et il apporte une promotion morale, spirituelle à la vie de l'homme. Comme dit ce chant, il nous a retirés de la boue du péché et il a mis nos pieds sur son ferme rocher. Ce soir, je dis cela, Jésus, c'est lui qui est l'auteur du salut. C'est lui qui est à l'initiative de notre salut, parce qu'il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est encore en train de se débattre. Ami, peut-être fais-tu partie de ces gens qui encore aujourd'hui essaient par toutes sortes de moyens de te sortir d'affaire. J'aimerais te dire ce soir, pourquoi ne pas capituler? Pourquoi ne pas baisser les bras? Et pourquoi ne pas dire, Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, et je réalise à moins que toi, tu ne fasses ton œuvre, à moins que tu ne fasses, toi, un miracle, à moins, Seigneur, que je ne saisisse cette bouée de sauvetage que tu lances dans ma direction. Jésus, le Sauveur, alors je suis perdu. Ami, puisses-tu le réaliser ce soir? Et en le réalisant, tourner tes regards vers le Christ, le Fils de Dieu. Car la Bible nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Un jour dans mon adolescence, voyez-vous, pourtant, je n'étais pas ni un débauché, ni un drogué, ni un bandit. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de l'adolescence, eh bien, un jour dans une réunion, le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Il m'a fait comprendre, voyez-vous, tout enfant de chrétien que j'étais pécheur. Parce que je vivais sans Dieu, sans foi, sans espérance. Et là, eh bien, dans cette soirée toute simple, dans une réunion, dans une salle où il n'y avait pas tout le confort que l'on a ce soir, le Seigneur est venu me révéler. Il me fallait, voyez-vous, le recevoir dans ma vie. Je suis rentré à la maison. Ma famille s'est mise à table pour manger. Je me suis retiré. Je me suis isolé. Et là, j'ai versé toutes les larmes de mon corps devant Dieu. En disant, Seigneur, je réalise, je suis un pécheur. Mes parents sont chrétiens, mais moi je suis perdu. Et à moins que tu ne viennes à mon secours, je suis désespérément perdu. Ce soir-là, Christ s'est révélé à mon cœur. Il a touché mon âme. Il a lavé mon péché. Et il a fait de moi un enfant de Dieu. Et ce qu'il a fait pour moi, il est capable ce soir de le faire pour quelqu'un. Eh bien, dans ce lieu, c'est lui, l'auteur de notre salut. C'est lui qui est à l'initiative de notre salut. En tout cas, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cela aussi, ça m'a interpellé parce que, au fond, vous savez, la Bible dit que au moment où Jésus est revenu à la vie après la résurrection, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous savez, il lui suffisait de venir et puis d'enfoncer la porte, de s'imposer pour que ces hommes et ces femmes soient éclairés. Ils réalisent leur néant, leur illusion, toute leur vanité, leurs erreurs. Mais non. La Bible nous dit, Jésus va se présenter comme un gentilhomme. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cela veut dire, ce Dieu, voyez-vous, tout grand qu'il est, tout puissant qu'il est, c'est un Dieu qui ne s'impose à personne. Son message, il ne l'impose à personne. Plus encore, je dirais, son salut, il ne l'impose à personne. Il propose. Et c'est à chacun d'en disposer. Lui ne force jamais la porte des cœurs. La Bible nous dit, le diable, lui, il impose. Lui, il s'impose. Lui, lorsque l'on ne veut pas, voyez-vous, eh bien, un peu comme un animal à qui on met un anneau au nez et on le traîne là où il ne veut pas aller. Le diable, il nous mène là où on ne veut pas aller. Il nous mène dans un style de vie que l'on ne veut pas vivre, que l'on ne veut pas, adopter. Mais Dieu, lui, n'est pas ainsi. J'aime à dire, la religion nous impose des choses. Quelquefois, on est né dans une famille, eh bien, c'est peut-être, je ne sais pas, moi, une famille chrétienne, une famille bouddhiste, une famille musulmane, et puis, eh bien, très tôt, on n'a même pas le temps de comprendre les choses, on nous estampille, on nous met une étiquette, toi, tu seras ceci, tu seras cela. La religion nous impose des choses. La religion nous impose des règles. La religion nous impose des préceptes. La religion nous impose toutes sortes, quelquefois, de sacrifices. La religion nous impose des choses. Mais Dieu, lui, n'impose jamais rien. Il se tient à la porte. Il frappe tout simplement. Il dit, si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est Voltaire, un jour, qui disait, rien ne sert finalement de contraindre nos consciences, ce qu'il faut c'est l'éclairer. Et ça, voyez-vous, c'est l'œuvre de l'Évangile. Chaque fois que l'Évangile est annoncé, eh bien, le Seigneur braque les projecteurs divins sur notre cœur, sur notre vie. Le but n'est pas, voyez-vous, je le répète, de nous imposer quelque chose, mais le but, c'est de nous amener à prendre conscience de notre état, de notre situation. On vivait dans nos illusions. Et nos illusions nous amenaient à la perdition. Et voilà que dans sa grande bonté, Christ se met en mouvement. Il vient dans notre direction. Il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe. Et par le moyen de sa parole, il éclaire le cœur. Il éclaire la conscience. Il nous dit, mais regarde dans quel état tu es véritablement. Regarde dans quelle situation tu es véritablement. Et si tu poursuis sur cette lancée, ta fin sera terrible. Et ainsi, en étant éclairé, alors, eh bien, on est amené, voyez-vous, à réviser notre position. On est amené à réviser peut-être notre conception des choses, le chemin sur lequel on s'était élancé. La Bible appelle ça la repentance. La bonté de Dieu, voyez-vous, nous pousse à la repentance. Et cette bonté passe par le fait que le Seigneur vient, il nous éclaire, il nous ouvre les yeux. Il illumine les yeux de notre intelligence. Il nous fait comprendre les choses afin que, en prenant conscience, voyez-vous, de notre état, de notre situation, eh bien, nous soyons amenés à changer de trajectoire. Eh bien, nous tournons le dos à la direction que nous avions imposée à notre vie. Et puis, nous revenons au Seigneur en disant, je me suis trompé, j'étais dans l'erreur. Mais tel que je suis, je viens à toi. Peut-être pas grand-chose, Seigneur, à t'apporter, pas grand-chose à t'offrir, sinon une vie qui n'est que l'expression d'un échec total. Mais je viens à toi. Accepte-moi. Et vous savez ce qui est merveilleux? Quand on prend conscience de nos erreurs et qu'on revient à Dieu, il ne nous repousse pas, il ne nous rejette pas, il ne nous rabroue pas non plus. Non. Mais il a les bras grands ouverts, il nous accueille, il nous étreint contre sa poitrine, il dit « Mon enfant, mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel, et parce que je t'aime d'un amour éternel, alors eh bien, je vais te faire du bien, je vais te transformer, je vais changer ta vie, je vais opérer une véritable métamorphose dans ton cœur, dans ton âme, dans ton existence. » Et je vais faire de toi un enfant du Dieu vivant et vrai. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et puis il est dit, si quelqu'un, et ça aussi, ça m'a interpellé. Parce que voyez-vous, ce simple mot, cette simple expression, si quelqu'un, nous révèle toute la portée de l'Évangile. Jésus ne dit pas « si quelqu'un qui est plus ou moins bien, plus ou moins irrépréhensible, plus ou moins droit sur le plan de la conscience, sur le plan de la moralité. » Non, Jésus dit « si quelqu'un ». La portée de l'Évangile, c'est magnifique parce que l'Évangile a une portée universelle. Alléluia! Dieu ne fait exception de personne. Il ne choisit pas qui il veut fréquenter, qui il veut avoir dans son camp, qui il veut avoir, voyez-vous, parmi ses enfants. Il ne choisit pas, il ne fait point exception de personne. Nous avons nos critères pour nous entourer. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est en fonction de nos atomes crochus, en fonction peut-être de nos affinités. Nous choisissons. Mais Dieu, lui, eh bien, il appelle tout un chacun. Le bon comme le méchant, le plus droit, pardonnez-moi l'expression, comme le plus tordu, celui qui est peut-être tout près de Dieu, comme celui qui est aux antipodes des normes divines ou de la pensée de Dieu. Il appelle tout un chacun. Et j'aime l'Évangile. Parce que quand je lis ce livre, Je vois comment Jésus a pu aimer le religieux. Il a pu aimer le brigand. Il a pu aimer la prostituée. Il a pu aimer les gens, voyez-vous, de bonne réputation. Il a pu aimer le petit. Il a pu aimer le grand. Il a pu aimer le pauvre, comme il a pu aimer le riche. Et il appelle ce soir tout un chacun. Le problème, c'est que quelquefois, c'est nous qui limitons la portée de l'Évangile dans notre vie. Que de fois nous avons entendu des gens dire, mais vous savez, pasteur, ce message est magnifique, vraiment, eh bien, ça fait du bien, c'est réconfortant d'écouter un tel message, mais vous savez, moi, j'ai tellement fait dans ma vie, je suis allé tellement loin dans certaines pratiques, dans certaines choses, je suis tombé tellement bas, pasteur, c'est bon pour les autres. Mais ce n'est pas pour moi. Vous savez, quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un, je crois que c'était dimanche après-midi, nous avions un service de baptême, et dans la prédication, je disais aux gens qui étaient là, si moi, je vais chez quelqu'un, je me propose d'aller chez quelqu'un, je vais choisir là où je veux entrer. Quelquefois, il y a des maisons, peut-être, on n'y entrerait pas parce qu'on se dit, ça ne me convient pas, peut-être l'atmosphère, peut-être les gens qui y habitent, peut-être pour certains parce qu'il n'y a pas l'hygiène qui serait à ma convenance. Mais Jésus, écoutez bien, plus c'est sale, plus il veut entrer. Parce que, dira-t-il, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, dira-t-il, mais ce sont les malades, ceux qui ont le cœur malade, ceux qui sont malades, eh bien, dans leur esprit, dans leur être intérieur, ceux qui sont atteints de ce mal terrible, la lèpre spirituelle, le péché qui nous ronge à petit feu et qui a pour issue la perdition éternelle. Plus c'est sale, plus Jésus insiste pour entrer. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi entrer dans ta maison. Et si nous lui ouvrons notre cœur, alors il vient, il passe un bon coup de balai, il fait, voyez-vous, un bon coup de ménage. Il ramène la propreté, la pureté intérieure. Il nous donne, eh bien, une vie de sainteté. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un. Ami, peut-être souvent tu l'as entendu, sa main frappera à la porte de ton cœur. Peut-être que souvent tu as entendu sa voix t'interpeller, mais peut-être tu as pris tes distances. Seigneur, je ne me sens pas digne. Et permettez-moi de vous dire ce soir, qui est-ce qui pourrait lever la main et dire, Seigneur, moi je suis digne. La seule chose dont on est digne, voyez-vous, c'est de recevoir le salaire de nos péchés. C'est la seule chose dont on est digne. Nul ne peut lever le petit doigt ce soir et dire, « Moi, Seigneur, je suis digne, tu peux entrer dans ma maison, tu peux entrer, Seigneur, dans mon cœur. » Il y a là la disposition qui va te convenir à tous les coups. Nul ne peut prétendre à pareille chose. Et c'est pour cela, Jésus laisse la portée, voyez-vous, l'étendue de l'Évangile, à la portée de tout un chacun, si quelqu'un plaise à Dieu, que ce soir, quelqu'un entende. Et puis non seulement il entende, je terminerai en disant, entendre c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Que d'hommes et de femmes, que de garçons, de filles ont entendu, mais ils n'ont jamais fait la démarche. Ils n'ont jamais fait le pas. Ils n'ont jamais pris la bonne décision. Et cela leur a été fatal. Si quelqu'un entend, mais qu'il ouvre. Parce que voyez-vous, la particularité de notre cœur, c'est que la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Et la poignée qui est à l'intérieur porte un nom, c'est notre volonté. Et s'il y a une chose, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a une chose que Dieu ne nous forcera jamais, un domaine dans lequel Dieu ne nous contraindra jamais, c'est dans le domaine de notre volonté. Il nous laisse libres dans nos choix, il nous laisse libres sur le plan de notre volonté, tellement il nous laisse libres. Voyez-vous, même lorsque quelquefois on a fait le mauvais choix, c'est avec regret qu'il le constate. Mais il ne peut rien pour nous parce que, à un moment donné, la balle est dans notre camp. Si quelqu'un entend, et puis il fait la démarche. Il ouvre son cœur. Il me donne accès à sa vie. Alors, dira Jésus, j'entrerai chez lui. Et c'est magnifique quand Jésus entre dans une vie. D'ailleurs, le cantique le dit, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Quand Jésus entre dans une vie, bien-aimé, c'est la paix, c'est le repos, c'est le bonheur, c'est la félicité. Quand Jésus entre dans une vie, oh, c'est un changement, eh bien, magnifique qu'il apporte dans un cœur. C'est bon de recevoir Jésus. C'est bon de le recevoir. Je vois M. Bucioz, hein. Je me rappelle quand, des fois, on avait l'occasion de se voir, son épouse me disait, excusez-moi de dévoiler certaines choses, mais son épouse me disait, mais vous savez, c'était quelqu'un de dur. Et quand il était à la maison, personne ne bronchait. Tout le monde filait droit. Et puis son épouse m'a dit, vous voyez, cet ours, pardonnez-moi l'expression, m'a léché peut-être. Eh bien, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a transformé. Et Mme Bucioz me disait toujours, d'un ours, le Seigneur en a fait un agneau. Et ce qu'il a fait pour cet homme, ce qu'il a fait pour tant d'autres, ce soir, il est capable de le faire pour quelqu'un. Amis, c'est bon d'entendre l'Évangile. C'est bon, eh bien, d'écouter la parole de Dieu, mais il faut plus. Ce soir, il faut une démarche. Ce soir, il faut faire un pas. Ce soir, il faut entreprendre quelque chose. Tu ne peux plus continuer, eh bien, à te contenter, à écouter l'Évangile simplement. Ce soir, il faut que tu étends ta main. Tu actionnes la poignée de la porte de ton cœur. Tu ouvres ce cœur. Tu laisses entrer ce roi de gloire. Tu laisses entrer sa lumière, tu laisses entrer sa présence. Et tu verras, ami, c'est là la plus belle décision que l'on puisse prendre. Recevoir Jésus dans son cœur. Dimanche, on avait, je le disais, un service de baptême, et parmi ceux qu'on a baptisés, il y avait un jeune homme qui venait à nos réunions comme cela, de temps en temps, et très engagé dans le sport, et faisait de l'athlétisme, des compétitions. Et puis un jour, vous savez, il ne faut pas flirter avec le monde. Parce que tôt ou tard, il finit par vous prendre. Lui non plus ne demande pas la permission. Et ce garçon, voyez-vous, il s'est amouraché d'une fille. Et cette fille s'est jouée de lui. Et puis quand elle a eu fini de se jouer de lui, elle l'a jeté comme un vulgaire produit dont on n'a plus besoin. Un dimanche matin, avec mon épouse, on arrive au culte. Je le vois arriver, un grand gaillard, plus grand que moi, bien bâti, un sportif, de haut niveau. Je le vois en larmes. Monsieur Zuel, il faut que je vous voie. On va dans une salle de garderie. On prend un moment, rapidement, il vide son sac. Il me dit ce qui s'est passé. Je dis, écoute, Jonas, tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas t'attacher à Dieu. Tu ne vas plus te contenter à venir simplement aux réunions. Maintenant, eh bien, on va prier ensemble, mais dans ton cœur, tu vas prendre une décision. Je vais marcher avec Dieu. Et il a pris cette décision. Souvent, le dimanche midi, avec mon épouse, on a beaucoup d'étudiants, on les garde, on mange ensemble le dimanche midi, comme ça, l'après-midi, ils sont là à la réunion. Et donc, il est resté avec nous, il a mangé avec nous. Et puis il a commencé à se fidéliser aux réunions. Et dimanche, il nous disait, plus je venais, et plus je me sentais bien, plus je venais, plus je sentais que le Seigneur était en train de faire son travail, et plus le Seigneur a fait son travail, plus ses voix se sont aplanies. Il disait, il ne dormait plus. Dormait plus. Plus rien ne marchait dans sa vie. Et à partir du moment où il a ouvert son cœur à Dieu, mais il nous le disait dimanche, tout a changé.
Il a retrouvé le sommeil. Il a retrouvé la santé. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Là, il a pas mal d'entretiens pour des embauches, etc. Amis, entendez sa voix ce soir. Ouvrez-lui votre cœur. Recevez-le dans votre vie. Laissez-le prendre les rênes de votre existence. Et vous verrez, c'est le meilleur des amis. C'est un bon maître. Ce n'est pas un despote. C'est celui dont le règne est un règne de paix. Alléluia. On se recueille. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur,